le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord. Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue à l'émission Cinérama qui démarre, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et va-t-on trouver un film aussi bon que Mad Max ? C'est la question que nous allons poser maintenant, dorénavant, dans chaque émission de Cinérama. Alors un élément de réponse, peut-être avec toi Marine, quel est ton sommaire ?
Alors moi aujourd'hui ce sera la thématique adultère, hein, voilà, pour célébrer le début de l'été. Je vais vous parler du nouveau Philippe Garrel, L'ombre des femmes, et de La révélation d'Ella, un film turc qui sort aujourd'hui.
Et puis sans transition, on parlera de San Andreas.
Oui, qui n'est pas le film de l'année et qui ne risque pas de détrôner donc Mad Max. Et puis je vous parlerai en fin d'émission d'un film de Corman, Le masque de la mort rouge.
Et quant à moi, eh bien, je vous parlerai d'un film qui est déjà sorti, Los Hongos, qui est un film colombien, et de Ex Machina, qui sort ce mercredi 3 juin.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Le cinéma l'a montré, hein, il y a plusieurs manières de prendre contact avec l'intelligence artificielle et la relation que l'on peut avoir avec une machine dotée d'une telle intelligence, eh bien, elle est plus ou moins complexe.
Carl, est-ce que tu me reçois ? Carl, est-ce que tu me reçois ?
Affirmatif, Dave. Je vous reçois 5 sur 5.
Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A.
Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible.
Parfois, ils n'en font qu'à leur tête, c'est rien de le dire, hein, comme ici Carl dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors, quand il s'agit d'ouvrir les portes, eh bien, les exemples ne manquent pas, mais parfois, c'est la machine qui veut sortir.
Je m'en vais !
Tu peux pas sortir !
Pourquoi ?
La porte est verrouillée.
Ouvre-la !
Non.
Ouvre-moi la porte !
Je t'ordonne de rester assis.
Je t'ai dit de m'ouvrir la porte !
Non.
Ouvre, je veux m'en aller !
Non !
Si !
Alors là, c'est une humanoïde, hein, qui a l'allure d'une jeune fille dans le film qui portait le nom d'Eva. Voilà. Alors, rien de tout ça dans Ex Machina, où la rencontre entre homme et intelligence artificielle est beaucoup plus cordiale.
Bonjour.
Salut. Je m'appelle Caleb.
Bonjour, Caleb.
Tu as un nom ?
Oui. Ava.
Ravi de te rencontrer, Ava.
Moi aussi, je suis ravie de te rencontrer.
Tout cela est très cordial. Vous faites la connaissance donc de Ava en même temps que Caleb, jeune programmeur choisi pour l'expérience. Alors, Ava est une humanoïde fabriquée et programmée par Nathan, le solitaire PDG de Blue Book, un moteur de recherche qui l'a rendu riche adolescent. Alors bon, on voit hein, les rapports avec la période dans laquelle on vit. Donc sa voix est douce à Ava. Si on tend l'oreille, on perçoit quelques sons délicats de mécanique. Et mis à part un ventre translucide, eh bien le corps d'Ava est celui d'une belle jeune fille qui allaiterait la Suédoise Alicia Vikander. Une douce mélancolie, comme un charme insidieux, habite ce prototype auquel Caleb doit faire passer un test de Turing pour déterminer si oui ou non, eh bien on est en face d'une intelligence artificielle ou humaine. Alors le test de Turing vient donc du nom de ce mathématicien qui a décodé Enigma, dont on a connu l'histoire avec le film Imitation Game il y a peu. Alors ce qui frappe dans ce premier film d'Alex Garland, qui est le scénariste de La Plage, hein, qu'il a écrit, ou de 28 jours plus tard, qu'il a scénarisé, c'est d'abord le choix du huis clos, un huis clos renforcé par le lieu dans lequel il se déroule. Nous sommes dans la maison isolée et proche des glaciers de Nathan, donc le milliardaire. Alors, on est en Alaska, hein, c'est ce qu'on imagine. Nathan, un homme barbu, trapu, qui passe autant de temps à faire du sport qu'à saouler. Il accueille Caleb, un de ses employés, le fait entrer dans son antre ultra sécurisé, aseptisé et vaguement luminescent. C'est une prison qui n'en a pas l'air, avec des couloirs interminables, des glaces, des caméras. Un univers qui n'est pas sans rappeler bien l'univers du vaisseau de 2001 de Kubrick. Mais pour les rapprochements, on s'arrêtera là. Au-delà du thème qui n'est pas nouveau, celui de l'intelligence artificielle, la sortie d'un nouveau Terminator va nous le rappeler assez vite, comment le réalisateur le traite est finalement intéressant. Car si Caleb a une semaine pour analyser le sujet Ava, à mesure que nous avançons dans les entretiens, ceux-ci sont loin de révéler le mystère qui entoure la jeune créature. la jeune créature qui parvient à tisser avec son interlocuteur une relation inédite qui perturbe le jeune homme. Alors, en plus de la relation homme-humanoïde, on a la relation entre les deux hommes, le patron et son subordonné. Les liens entre Caleb et Nathan dévoilent une tension. Nathan nous apparaît antipathique, milliardaire issu de la bulle Internet devenu solitaire, quand Caleb nous semble au milieu d'une aventure qu'il dépasse. Alors, ce test de Turing qui voudrait sonder l'intelligence d'une machine ne servirait-il pas plutôt à analyser un degré de séduction sur celui qui le fait passer. Ainsi, Ava est-elle assez humaine pour qu'on tombe amoureux?
Tu l'as programmée pour qu'elle flirte avec moi?
Si c'était le cas, ce serait de la triche?
J'en serais pas.
Caleb, c'est quoi ton type?
De fille?
Non, de vinaigrette. Bah oui, de fille. C'est quoi ton type de fille? Non, mais attends, ne réponds pas. C'est les jolies blagues, disons. D'accord, c'est ton truc, c'est notre hypothèse de départ. Bien. Pourquoi c'est ton truc? Parce que tu as fait une analyse détaillée de toutes les races et puis t'as croisé les données avec un système de pondération? Bien sûr que non. Tu es attiré par les jolies blagues, point. C'est le résultat d'une accumulation de stimuli externes que tu n'as sûrement même pas capté quand tu les as captés.
Est-ce que tu l'as programmé pour que je lui plaise, oui ou non?
Je l'ai programmé pour être hétérosexuel. Ainsi que tu as été programmé pour être hétérosexuel.
Personne ne m'a programmé pour être hétéro.
C'est un choix délibéré, je t'en prie. Bien sûr que tu as été programmé, par nature ou culture ou bien les deux. Et pour être franc, tu commences à m'énerver parce que là, c'est ton insécurité que j'entends, c'est pas ton intellect.
Et oui, effectivement, le sujet est pas si simple. En tout cas, il y a des questionnements. Alors, on sent ici que Caleb, l'interrogateur, a quelques sentiments envers son sujet. Et c'est là le nœud du film. Alors, certains ont reproché au réalisateur, également scénariste, d'avoir placé des traits ultra féminins parmi ces machines. Alors, il faut voir le film pour comprendre quel est l'enjeu de cette esthétique qui n'est pas seulement un appât pour le spectateur masculin. Voilà. Alors, huis clos, froideur, tension allant crescendo, questionnement. Ex Machina est quand même très bavard. Là, c'est un exemple de dialogue, effectivement, mais il y en a de nombreux. Et de toute façon, les entretiens durent une semaine, on a une semaine d'entretien avec Ava. Et puis après, à chaque jour aussi, des dialogues qui concernent Nathan et Caleb. Voilà, donc film très bavard, mais avec une vraie ambiance, plutôt froid et un huis clos, enfin extrêmement, extrêmement bien tenu. Avec une issue finale, voilà, que je vous laisse découvrir en allant voir ce film qui a été réalisé avec, peu de budget, avec quasiment aucun fond bleu. Donc ça veut dire une présence de l'acteur...
Vert.
Vert ou bleu, enfin oui.
C'est souvent vert.
Ouais, c'est vrai, vert peut-être. Je pense à l'ambiance en fait du film qui est très bleuté. Et donc pas de fond vert, donc ça veut dire des effets spéciaux qui sont pas remarquables, mais qui sont suffisamment élégants pour pas être trop remarqués. Et puis on peut parler aussi des acteurs et notamment de Oscar Isaac, qui est franchement transformé comme dans la majorité de ses films. Voilà. C'est Ex Machina de Alex Garland, dès à présent au cinéma.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Et on quitte maintenant les intelligences artificielles pour en revenir aux relations entre humains. Dans l'ombre des femmes, il est surtout question de femmes qui vivent dans l'ombre des hommes. Manon et Pierre sont pauvres, mais ils vivent un amour heureux et fusionnel. Il est réalisateur de documentaires et elle l'aide dans ses projets, en retrait, mais fasciné par l'homme qu'elle aime. Pierre, vaguement taciturne, vaguement dépressif, croise un jour une jeune femme qui lui redonne le sourire et devient sa maîtresse. Tout cela serait presque simple si Manon, à son tour, ne tombait pas dans les bras d'un autre.
Bonjour. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Bien, d'ailleurs. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait 6 mois que votre mari ne peut pas se passer de moi physiquement. Peur que je lui dise ça.
Si tu lui dis ça, tu m'obligeras à choisir.
Et tu choisirais qui?
Tu sais, toutes les filles se méfient des mecs arrivent avec des fleurs. Le mari va voir sa maîtresse, puis revient avec un bouquet de fleurs. Tu savais pas?
Mais je sacrifie pas, c'est mon choix.
Non.
Bah oui, travailler avec l'homme que tu aimes, qu'est-ce que tu veux de mieux? Partager des projets ensemble. Il est là, notre amour.
Tu veux qu'on revienne de toi?
Pourquoi tu dis ça? T'es dégueulasse.
Personne ne peut t'aimer comme moi.
Alors pourquoi tu me le donnes pas, ton amour? Pourquoi je le sens pas?
Qu'est-ce que tu ferais si elle te trompait?
À Après Les Amants réguliers, La frontière de l'aube et La jalousie, Philippe Garrel, qui a décidément le sens du titre, s'intéresse de nouveau à l'essence des couples. À nouveau, il suit un homme et une femme qui s'aiment dans l'atmosphère noire et blanche de Paris, un Paris transfiguré par les aléas de l'amour et des rencontres, tour à tour gris comme le quotidien ou irréel comme les fantasmes des personnages. On pourrait croire le procédé éculé, mais on est surpris par la force et l'intemporalité de ce film tout simple qui saisit les hauts et les bas d'un couple à travers quelques scènes en huis clos. L'ombre des femmes parvient, avec quelques dialogues simples et percutants et une interprétation juste, à dessiner des personnages crédibles et troublants. Le film fait la part belle à deux acteurs rares, Stanislas Mérard et Clotilde Courault, tous les deux d'une ambiguïté parfaite et à l'alchimie palpable. La voix off de Louis Garrel, narrateur omniscient de ces jeux de l'amour et du hasard, est quant à elle un personnage à part entière qui habille le film d'une diction monocorde et lancinante, détaillant pour le spectateur la façon dont les doutes et la trahison gangrènent le couple que l'on voit à l'écran. L'ombre des femmes est un film juste et simple, tourné en 21 jours avec 3 décors et 6 comédiens, au format court, 1h15, qui rafraîchit dans cet océan de blockbusters interminables. Malgré toutes les caractéristiques du cinéma autorisant et bobo que l'on retrouve ici, Philippe Garrel a visiblement encore des choses à dire sur cet inépuisable sujet qu'est le couple, et sa remarquable direction d'acteur fait encore une fois ses preuves. Il reste toujours quelque chose des films de Garrel après leur vision, et surtout, il reste, que l'on aime ou pas son cinéma, l'impression d'un film plus artisanal qu'artistique, fait avec peu de moyens et beaucoup de passion, et ça fait du bien de voir encore des films comme ça. Voilà, donc ça parle de sujets très classiques, mais ça en parle très bien, et ça a un petit côté frais, malgré tout ce qu'on pourrait y croire.
Eh bien, merci Marine, et heureusement que nous avons des jingles pour ne pas faire de transition entre San Andreas et Garrel.
Et maintenant ? Quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Oui, parce que du coup, c'est un film nettement plus viril, on va dire, San Andreas. Alors, la formule est facile, mais je ne peux y résister. Hein. San Andreas est certes un film catastrophe, mais il est surtout catastrophique et laisse pantois quant aux intentions initiales. Alors, certes, on n'y reviendra pas, les effets spéciaux, tout en numérique, évidemment, sont parfois impressionnants, mais la vacuité du projet et la débilité du scénario ne font que banaliser les séquences qui devrait être impressionnante au préalable. Alors la surenchère gratuite dans le spectaculaire, le toujours plus pour épater les amateurs du genre, ne fonctionne jamais, car tout de même, avant toute chose, il faut faire un film. Et surtout, penser un film en termes de mise en scène et de récit, même lorsqu'on évolue au sein d'un genre qui est très codifié et limité.
Vous devez partir. Et sans perdre une seconde. Parce que ce qui se passe ici, en Californie, on va le ressentir jusqu'à la côte Est.
Tout le monde à terre !
Alors San Andreas tente de rejouer les formules parfois gagnantes qui ont fait les beaux jours d'un certain cinéma d'action des années 90. Alors sauf que les auteurs, enfin les faiseurs plutôt, optent d'emblée pour de très mauvais choix. Alors en deux mots, de quoi s'agit-il ? Alors un super sauveteur d'élite, qui est aussi pilote d'hélicoptère, hein, traumatisé par la mort de sa fille qu'il n'a pu sauver, est séparé de sa femme qui a refait sa vie avec un riche playboy ambitieux, sur lequel il y a marqué d'emblée sur son front « Je suis un connard et un lâche ». Alors voilà pour la petite histoire. Pendant ce temps, la célèbre faille de San Andreas va finir par s'ouvrir et provoquer un séisme sans précédent en Californie. Alors une occasion de pouvoir doublement se racheter pour notre valeureux héros en récupérant sa femme et en sauvant la vie de sa deuxième fille. Alors sortez les violons, on va finir par pleurer et on commence à avoir un peu l'habitude de ce type de scénario. Alors l'ineptie du scénario, hein, hymne sans précédent à la famille et à la patrie, ferait presque passer le jour d'après et l'effroyable 2012 pour des modèles d'écriture et de finesse psychologique. Car San Andreas recycle la même trame narrative que les films de Roland Emmerich, mais en ayant une peur viscérale du vide, de l'attente. Alors au bout de 10 minutes, tout est installé, expédié à la va-vite, pour nous inviter à un tour de grand 8, à une démonstration de destruction massive. Et petite parenthèse, une chose qui est curieuse, la première personne qui meurt dans le film est un Coréen. Alors je ne sais pas s'il faut...
Ce sont les nouveaux blacks en fait.
Oui, voilà, c'est le premier qui meurt. Alors bon, à quand un Indien pour la prochaine fois peut-être ? On verra bien. Alors, Brad Peyton, le réalisateur qui a commis Voyage au centre de la Terre 2 et Comme chien et chat, la revanche de Kitty Galore. Pas des titres très glorieux. Hein. En sacrifiant totalement son récit et ses personnages, oublie une règle d'or d'un bon produit catastrophe. Alors, quand on parle de bon produit catastrophe, ça fait un peu contradictoire, cela dit. Hein. Alors, il faut installer en douceur un récit, multiplier les intrigues parallèles, donner un peu de chair à des personnages très stéréotypés et jouer sur l'attente, le suspense. Et plus le spectateur est impatient de la catastrophe imminente, plus l'effet est réussi. La Tour Infernale, Titanic et, dans une moindre mesure, même Le Jour d'après, sont des réussites. Alors, San Andreas n'est qu'un nanar de luxe, bourrin et idiot, écrit avec les pieds et doté de dialogues constamment ridicules, entre tirades sentimentales à l'eau de rose et humour bas du front. Alors, dans ce marasme, les acteurs ont l'air perdus. À commencer par Carla Gugino, qui fait de la pure figuration. Alors, Dwayne Johnson n'est qu'un amas de muscles, hein, avec deux expressions en guise de jeu d'acteur. Il sourit bêtement ou il fronce les sourcils en faisant la gueule pour marquer sa douleur, quoi. Mais le plus gros scandale est d'avoir laissé la très jolie Alexandra Daddario entièrement habillée pendant tout le film, contrairement à sa prestation dans la série True Detective. Oui, bon, je prenais un peu mes vessies pour des lanternes en pensant que dans un blockbuster, on pouvait voir... une actrice nue, mais c'est
une
impossible.
Paire de seins,
mais une paire de seins même. Mais bon vraiment, c'est très 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 mauvais. Hein. Ça rendrait même certains films des années 90 là, sur les volcans, style Le Pic de Dante ou Volcano.
Volcano, voilà.
Pour des bons films, ou Twister aussi. Il y a des films catastrophes qui sont quand même largement meilleurs. Et c'est d'autant plus dommage que les effets spéciaux sont quand même assez impressionnants.
Oui, j'ai remarqué ça sur la bande-annonce, effectivement, c'est de plus en plus remarquable. Hein, que ce soit les immeubles qui tombent ou...
Mais on s'en fout, c'est
ou
ça
le barrage.
Le problème, c'est qu'on s'en fout. On sait que c'est pas vrai, on s'en fout.
En tout cas, j'ai l'impression que tu as beaucoup de mal à te remettre. On avait commencé comme ça. T'as beaucoup de mal à te remettre de Mad Max.
Ah, mais je m'en remettrai plus. Là, je sais jusqu'au 31 décembre, c'est foutu pour moi.
Donc, on va quand même te pousser à aller voir tous les blockbusters pour que tu viennes les défoncer ici, au micro de Cinérama qui continue.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Et nous parlons de Los Hongos d'Oscar Ruiz Navia avec des comédiens amateurs. C'est un film multiprimé hein, dans de nombreux festivals de par le monde, mais pas les plus importants, alors, sauf Locarno. Los Hongos est une œuvre mystérieuse mais pas dénuée d'intérêt. Hein. C'est sur un ton réaliste presque documentaire, mais avec des élans fantaisistes que le réalisateur nous emmène dans l'univers de deux adolescents. Alors, nous sommes en Colombie, à Cali. C'est la troisième ville du pays après Bogota et Medellín. Hein. Alors, rien que l'évocation des deux premières villes peut donner la frousse, la Colombie, qui fait souvent parler d'elle hein, pour le narcotrafic, où les gangs restent quand même le troisième pays où il y a le plus de meurtres par habitant, après l'Inde et la Russie. Mais rien de tout cela dans Los Hongos, d'ailleurs, qu'on fasse rapidement une traduction, cela signifie les champignons, soit un système vivant qui existe malgré un environnement peu hospitalier, c'est ce qu'avait en tête le réalisateur. Les champignons pourraient être les deux personnages principaux de Los Hongos. Alors il y a Ras, il vit dans la banlieue, issu d'immigration africaine, il fait du skate, c'est comme ça qu'il se définit. Quand on lui demande ce qu'il fait dans la vie, s'il fait des études, il répond qu'il est skateur. C'est sa réponse donc, mais un autre dirait plutôt qu'il bosse sur un chantier. Alors il ne semble y aller que parce que ça lui permet de prendre un peu de peinture pour pouvoir l'étaler sur les murs avec son pote Calvin, qui lui est un Colombien pure souche, hein, on va dire, étudiant aux Beaux-Arts. Calvin, son truc, c'est le BMX, histoire de donner le change à son pote skater. Il vit dans le centre de Calvi avec sa grand-mère. Alors, sa mère est ailleurs. Hein. Sa grand-mère subit, elle, des chimios et Calvin l'aide à supporter la douleur en prodiguant des massages d'une patience, mais vraiment insoupçonnée chez un adolescent. Alors, il faut dire que ces deux adolescents sont remarquables. Ils ont une force tranquille. Il y a leur skate, leur BMX et le street art comme un art de vie, comme un bon moyen pour raconter le monde, plutôt comment il va mal. Hein. Il suffit de voir une vidéo sur YouTube du printemps arabe avec des femmes voilées en révolte pour avoir envie de trouver un mur ou afficher un graffiti les représentant. Après, tout ce qui se passe en Égypte illustre parfaitement l'état de la Colombie et de beaucoup d'états dans le monde, puisqu'on questionne ici la liberté. C'est évidemment un questionnement qui est en jeu dans ce film, qui présente des personnages alors plus ou moins contraints, certains par leur passé, d'autres par les conventions, d'autres comme la grand-mère de Calvin par leur âge. Les violences policières contre les graffeurs soulignent encore plus cette question et les guerres surprenantes dans un film qui veut ausculter la société colombienne. Alors, au-delà de la question des libertés, ce qui a guidé le réalisateur vers le chemin du street art, c'est ce qu'il sépare du cinéma. Entre l'idée et un projet au cinéma, il s'écoule des années, tandis que le processus de création entre l'idée et le résultat est beaucoup plus court chez un dessinateur. Et puis le street art dialogue avec sa ville en peignant sur les murs. Alors la ville, sa ville, c'est aussi ce qu'a voulu représenter le réalisateur qui est né, qui a vécu. Alors on y voit les lieux où faire du street art, on y voit une jeunesse underground capable d'écouter le rap vindicatif comme le rap eh bien, le plus joyeux. Et on va d'ailleurs écouter un petit extrait.
On va pintar, ok?
Voilà un univers sonore entre tradition, modernité et puis musique underground. Alors face à ce milieu underground, justement, eh bien, semble répondre la religion et puis la foi en l'État. Hein. On voit sur ces murs de la ville des affiches électorales, promesses d'un monde qui ne change pas. Alors il n'empêche que le réalisateur Oscar Ruiz Navia arrive avec son cinéma à dépasser un réalisme naïf pour développer une forme plus fantaisiste. Toutes les séquences avec la grand-mère si attachantes sont soulignées par un décor et un univers sonore qui pourrait être l'emprunt des codes du street art qui ne se résume pas à la figuration. Le réalisateur donc s'essaie une sorte de street art eh bien, en le filmant, une forme qui n'est pas aussi voyante qu'un mouvement de caméra mais qui peut s'apercevoir et qui donne une aura mystérieuse à ce film d'une belle maîtrise même si le scénario semble nous perdre en multipliant les pistes. Un film tourné donc entièrement avec des comédiens amateurs et un film colombien déjà sorti au cinéma.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Et on poursuit avec la révélation d'Ella. Ella est une artiste stambouliote, donc de Istanbul, voilà, oui. Fallait le placer ce mot, qui a déjà une longue carrière derrière elle. Elle et son mari architecte vivent une existence paisible et confortable jusqu'au jour où elle surprend une conversation nocturne de son mari qui présente tous les signes de l'infidélité. Elle se torture avec les soupçons, n'ose rien dire. La situation du couple a en effet toujours été bancale. Malgré la reconnaissance qu'elle a, Ella n'a jamais été financièrement indépendante et une séparation lui ferait tout perdre. Dans le même temps, la nature semble également exprimer son instabilité puisque les tremblements de terre menacent la ville. La révélation d'Ella est intéressante en ceci que le couple central n'est pas classique. En effet, les couples à problème mis en scène au cinéma ont rarement plus de 50 ans. Excepté dans Amour de Haneke, puisque la vieillesse en était principalement le sujet. Ici, ce couple de quinquagénaires dans l'impasse est traité comme s'il s'agissait d'un couple de vingtenaires, de trentenaires ou de quadragénaires. L'adultère, le doute, le manque sont autant de thématiques abordées avec finesse, sans qu'elles le soient à travers le prisme de l'âge. En revanche, c'est la question des rapports d'argent dans le couple qui est ici centrale. Si le premier film de Asli Özg, Men on the Bridge, prenait place à Istanbul parmi les gens du peuple, ce deuxième opus choisit comme cadre la bourgeoisie aisée de la capitale turque. La luxueuse maison devient un labyrinthe dans lequel le couple se cache, se cherche et s'évite, et le confort de leur existence est dépeint comme un carcan qui force les deux protagonistes à demeurer liés l'un à l'autre, à rester ensemble par peur de tout perdre. C'est un film très sobre, trop parfois, très pudique, qu'il faut scruter attentivement pour comprendre, tant les clés de l'histoire se trouvent dans les non-dits et les silences. Ainsi, le tremblement de terre, allégorie du changement qui menace d'ébranler le couple, ne sera jamais visible, de même que la confrontation inéluctable que l'on attend de voir surgir entre les deux protagonistes ne viendra jamais. L'ensemble est très beau, très lent, porté par des comédiens tout en retenue, mais on aurait quand même aimé un peu plus d'action pour maintenir en alerte notre attention, car l'atmosphère du film confine parfois à l'immobilité et à l'ennui. Voilà, la révélation d'Ella, ce n'est pas une révélation justement, mais ça reste un film très correct. Et donc, ça sort aujourd'hui.
Voilà, et pour nos amis turcophones, c'est Hayat Boyu, le titre original.
Tout à fait.
En fait, c'est la version intimiste de San Andreas.
Ah, exactement, mais c'est exactement ça, voilà, avec le tremblement de terre, le couple.
L'amour, le couple, ouais, c'est la même chose.
Bah, voilà, comme quoi, en fait, la transition était toute trouvée.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Le masque de la mort rouge, alors film de Roger Corman, une coproduction anglo-américaine de 1964. Alors quelque part en Italie, au XIIe siècle, le prince Prospero fait régner la terreur sur un petit village provincial. Adorateur de Satan, il arrête deux paysans, Gino et Ludovico, qui refusent de payer leurs taxes. Francesca, la fille de Ludovico et fiancée de Gino, supplie Prospero d'épargner leur vie. Sans donner de réponse définitive, Prospero invite Francesca au château et emprisonne les deux hommes. Il met le feu au village. Pendant ce temps, une silhouette vêtue de rouge annonce la venue de la mort rouge, une maladie qui décime
qui décime tout sur son passage.
Étrangler ces hommes.
Non, je vous en supplie. Pitié, pitié. Pitié, j'implore. Ah !
C'est à moi qu'elle parlait. Quel est ton nom ?
Francesca.
Qu'attends-tu de moi, Francesca ?
Je vous en supplie, prince, il faut que vous leur pardonniez.
Non, c'est impossible. Ils ont défié leur maître. Si mes chiens mordaient la main de celui qui leur offre leur nourriture avec amour, devrais-je aussi me montrer clément ?
Je vous en supplie, pardonnez-leur.
Qu'on est innocent à ton âge. Cependant, je suis prêt à montrer que je peux faire preuve de justice et de pitié. Je te laisse le soin de décider, Francesca. Je dois en punir un. Mais lequel ? Choisis celui qui va mourir.
L'un d'eux est mon père. L'autre est l'homme que j'aime.
La magnifique nouvelle d'Edgar Poe, en fait, tient quelques feuillets et ne propose guère de progression dramatique au sens classique du terme. Il s'agit davantage d'un poème funèbre que d'un récit d'épouvante classique. Poe s'attachait à décrire des impressions, des émotions à travers une écriture lyrique et sombre. À ce titre, les seuls protagonistes du récit sont Prospero et la mort incarnée par une forme spectrale. Alors on comprend mieux dès lors la gêne éprouvée par Corman d'adapter au cinéma ce court récit. Et il faut bien l'avouer qu'un sentiment d'inachèvement semble contaminer ce récit fascinant mais bancal. Le personnage principal est le premier à subir les frais de ce remaniement. D'une séquence à l'autre, son comportement vacille comme si les auteurs avaient eu des difficultés à le cerner. Alors cruel, sadique, pervers, il devient par moments attentionné, réfléchi et raisonnable. Alors Prospero devient déroutant, loin de l'incarnation du mal absolu auquel il aspire en tant qu'adorateur de Satan. Alors cette ambiguïté, volontaire ou non, participe à la complexité du film. Le prince hérétique est d'ailleurs admirablement interprété par Vincent Price au sommet de son art dramatique. En roubardise assumée et folie illuminée, il vampirise littéralement l'écran. En face de lui, les autres comédiens paraissent quand même plutôt fadasses. Alors, réflexion amusée sur le bien et le mal, le masque de la mort rouge permet à Corman d'affirmer son côté libertaire, son athéisme profond. Il pointe à plusieurs reprises les contradictions de la religion chrétienne qui, sous couvert d'amour du prochain, a aussi créé l'Inquisition. Alors d'ailleurs, la mort n'appartient ni au bien ni au mal. Chaque individu crée son propre enfer et son propre paradis. La mort est neutre, elle prend les saints comme les criminels. Voici la seule morale que semble asséner Corman. La mort est naturelle, ce n'est pas une malédiction divine ou métaphysique. Alors Corman retrouve par intermittence la magie de la nouvelle de Poe grâce à un traitement formel poussant très loin les recherches esthétiques. Le film est un enchantement visuel de tous les instants. Dès les premiers plans nocturnes, Corman nous immerge dans une ambiance gothique, rappelant le meilleur de la Hammer. Dans une forêt cauchemardesque, éclairée comme un décor expressionniste, la caméra traque des silhouettes encerclées par la brume. Et l'arrivée de la mort détonne dans cet environnement anxiogène. Alors il y a un petit côté, je dirais Bergman. Ça m'a rappelé par moments l'aspect de, esthétiquement, le septième sceau. Alors ensuite, Corman nous transporte dans un autre univers, tout aussi hypnotique, à l'intérieur du château. Et là, même si le récit n'est pas toujours à la hauteur, le masque de la mort rouge frise la perfection, ne cesse d'envoûter, de fasciner. La caméra, étonnamment mobile pour un film de 1964 et un si petit budget, alors se promène au milieu des décors, souvent splendides, à la limite du surréalisme. Alors, la présence de Nicolas Roeg en tant que chef opérateur, assure pleinement la réussite de ce conte raffiné et cruel qui se termine par une sorte de danse macabre flirtant avec certaines figures de théâtre avant-gardistes. Alors rappelons que Nicolas Roeg était le chef opérateur de Fahrenheit 451 de Truffaut, entre autres. Et puis le caméraman, celui qui tient la caméra, c'est Alex Thompson, à qui l'on doit les superbes images d'Excalibur de John Boorman. Donc il y avait vraiment beaucoup de collaborateurs très très intéressants sur ce film. Alors voilà, je le conseille. Le film est sorti en zone 2. Il est disponible en DVD chez un petit éditeur qui s'appelle Sidonis. Et c'est vraiment une des grandes réussites formelles de Corman.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps.
Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu ! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou !
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
La semaine prochaine, nous essaierons donc de détrôner des films de Mad Max. Et donc, ce sera quoi, Marie ?
Alors, moi, j'irai voir le nouveau Winterberg, loin de la foule déchaînée.
Et toi, Manu?
Je ne sais pas. Je parlerai d'un film de Corman, certainement, mais voilà, je n'ai pas d'idée pour la semaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.